du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Tu te souviens qu'à la fin de l'année scolaire dernière, qui coïncide pour nous avec l'année radio, nous avions un peu laissé en plan notre exploration du dictionnaire des titres. Alors naturellement, nous allons la reprendre.
On en était à B.
Et là, le premier morceau qui s'annonce est un morceau qui s'appelle...
Bean O.
Oh là là, mais c'est de l'argot ça.
Eh bien ça veut dire bean. Si vous avez fait un tout petit peu d'anglais, vous savez que ça veut dire les haricots. Et... le haricot est quelque chose qui, dans la culture culinaire des Noirs américains, est extrêmement présent.
Surtout quand il est rouge, d'ailleurs.
Oui, mais de toutes sortes. Ils en mangent, ils en mangent. Et bean o, c'est quelque chose qui est tout à fait sympathique, finalement.
Ben oui, ça désigne une fête. Voilà, on fait une fête, on organise une fête, une partie... Et on va l'appeler bean o parce que c'est une partie entre copains ou entre amis. Et ça peut désigner, par exemple, une house rent party. Tu sais ce que c'est, les house rent party?
Oui. Les house rent party, c'est quand quelqu'un a vraiment des difficultés pour payer son loyer, eh ben il invite. Il invite tous les gens qu'il connaît, ses amis, à venir chez lui. Et ceux-là sont d'ailleurs d'accord. Ils payent une participation pour rentrer. Et avec cette participation, l'inviteur, il paye les musiciens, il paye les haricots qu'il propose, bien sûr. Et puis, il finit par pouvoir payer son loyer. Génial, non?
C'est génial, mais j'espère seulement qu'il ne paye pas ses musiciens avec des haricots. Ce serait pas bien.
En tous les cas, c'est très sympa, cette histoire-là.
Ah oui, alors ça peut être aussi un barbecue, si c'est l'été, barbecue, friture, enfin tout ce que vous voulez. Il y a une célèbre partie de friture du samedi soir chez Louis Jordan, par exemple. Enfin, quoi qu'il en soit, le bean o, là, c'est joué par Eddie Davis, le fameux saxophoniste ténor. Et il y a un organiste qui était, à l'époque, assez connu, qui a eu son heure de gloire, mais qui est maintenant tombé dans l'oubli, mais qui était un excellent musicien.
Il s'appelait Doc Bagby. Ça ne veut pas dire qu'il était médecin. Souvent, le surnom Doc, c'était quand un type était un peu, justement, vous savez ce qu'on appelle en français doctoral. Un peu savant, un type qui en impose.
Et qui fait très attention à soigner sa santé. Thank you. Le morceau suivant nous emmène dans l'élégance et le dandysme du siècle avant-dernier. Il s'agit d'un monsieur, de l'évocation d'un monsieur qui s'appelait George Bryan. Mais tu connais son surnom ?
Ah oui, Beau Brummel. Alors c'est très intéressant parce que Beau, c'est une résurgence du mot français Beau. B-E-A-U, quelqu'un qui est beau.
D'ailleurs, Belle, c'est un prénom aussi.
Absolument. Et Beau Brummel, alors là, Brummel.
Très célèbre. Avec Beau Brummel, nous voici plongés dans la régence anglaise, c'est-à-dire début du 19e siècle.
Beau Brummel, c'était quelqu'un de vraiment particulier. C'est lui, si on peut dire, qui a inventé la mode anglaise. Alors cet homme-là, il lui fallait 5 heures pour s'habiller. Ah oui, c'était la grande affaire de sa vie. Et puis qui est devenue finalement la grande affaire des dandys de l'époque.
C'est lui qui a lancé le dandysme en fait. Et vous savez, quand vous vous endimanchez un peu, que vous mettez votre complet veston, eh bien vous devez, sans le savoir, ou en le sachant maintenant, quelque chose à Beau Brummel.
Bien sûr, les Américains, leur culture, elle est quand même très, très britannique hein, au départ. Eh bien, c'est devenu Beau Brummel ou Brummel, tout court, c'est devenu le symbole de l'élégance.
C'était proverbial et c'est pourquoi un chef d'orchestre, un de ces orchestres qu'on appelait les Territory Bands, c'est-à-dire les orchestres de province en fait, si tu veux, mais qui ont formé de très bons musiciens qui ont été très connus par la suite, comme Cy Oliver dans cet orchestre-là, qui était celui de Zach White. Eh bien, il avait appelé son orchestre les Zach White Chocolate Beau Brummel.
Eh bien, dis donc.
Rien que ça.
N'oublions pas que Chocolate... C'était une allusion au fait qu'ils étaient noirs.
Aucun doute. Et l'indicatif de l'orchestre était, je suppose, ce morceau appelé Beau Brummel, que Count Basie a repris à son compte. Et voici un portrait musical de l'arbitre des élégances d'il y a 2 siècles, mesdames et messieurs. Thank you. pour le morceau suivant, nous allons avoir recours aux périphrases, étant donné que de jeunes oreilles nous écoutent, car c'est de l'argot de bas étage.
Oui, alors, ça vous dira peut-être rien, mais on va vous le dire, le vrai titre, c'est « Biddle ». Oum, boum.
C'est de l'onomatopée, ça rappelle un peu les onomatopées berlusconiennes célèbres.
Et en réalité...
Eh bien, dans des milieux dont la morale réprouve la fréquentation et qui sont pleins de dames extrêmement avenantes, ça désigne tout simplement leur outil de travail. Mais comme vous allez voir, ça se chante très bien. Par Don Redman et les McKinney Cotton Pickers.
Et maintenant, on va vous parler d'un personnage un peu spécial. Non pas qu'il était particulier en tout, mais il avait une petite manie. Il ne voulait jamais donner un titre au morceau qu'il jouait. C'était Jimmy Yancey.
Blues et boogie. Et c'était un vieux bluesman paresseux du côté des titres, en fait.
Et oui, alors il le faisait faire aux autres.
Alors il laissait exactement ses producteurs choisir les titres. Alors c'était une équipe très jeune qui avait pris le destin de Jimmy Yancey en main, en tout cas le destin enregistré. Et ils attribuaient aux morceaux qu'ils jouaient tout ce qui leur passait par la tête. En l'occurrence, dans l'équipe, il y avait un autre pianiste qui s'appelait...
Bob Green.
Et ce Bob Green avait une copine.
Ne riez pas, hein. Qui s'appelait d'un nom tout à fait courant, c'est-à-dire Béatrice, mais dont le surnom était Bizoum.
Alors peut-être qu'elle a été portée sur le bisoum.
Sait-on ?
On va savoir. En tout cas, le morceau que vous allez entendre s'appelle « Bisoum Blues ». Je ne suis pas sûr que la jeune personne ait été au courant. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr non plus que Jimmy Yancey en ait été informé. Voici maintenant un morceau qui a été enregistré par un orchestre que nous avons bien connu, qui était l'orchestre de Buddy Tate, appelé Celebrity Club Orchestra.
Et le titre qu'on va vous passer, ah, c'est une aventure qui arrive malheureusement aux musiciens. Le titre, c'est Ben's Broken Saxophone, ce qui veut dire le saxophone cassé de Ben.
En l'occurrence, Ben Richardson. Alors, je ne sais pas quel saxophone avait été cassé, parce qu'il jouait du baryton et de l'alto dans cet orchestre. Mais, en tout cas, à l'aéroport, les bagagistes lui ont fait des misères.
Alors, je suppose que vous avez tous un jour ou l'autre pris l'avion et que vous savez que les bagagistes des avions ont souvent la main très très lourde.
Il manque vraiment de tendresse. En fait,
ils vous fichent ça dans la soute. Et allez donc, vous avez intérêt à avoir des instruments vraiment bien enveloppés. Hein.
Oui, d'ailleurs, le bon étui très solide s'appelle un sarcophage. Et en l'occurrence, quand Ben Richardson a rouvert son sarcophage, le contenu était vraiment mort. Enfin, il est arrivé à le réparer en bricolant un peu, avec des élastiques et des bouts de ficelle, ou un fil de fer, un petit tournevis, je ne sais pas. Et il a été obligé de jouer une partie de la tournée européenne de cette année-là avec ce saxophone bancal. Il n'était pas content et du coup, pour en rire...
Eh bien, ils ont trouvé... très judicieux, d'au moins donner un titre où il y a le saxophone cassé de Ben.
Voilà, comme ça, on ne l'oublie pas, on le dédie au personnel de l'aéroport responsable, à son assureur, au réparateur et à Ben Richardson lui-même, qui était un excellent musicien. Nous allons plonger dans le blues profond de la mama fondatrice, finalement, qui s'appelait Gertrude Pridgett. Mais
tout le monde la connaît sous le nom de Ma Rainey.
Eh oui, elle avait épousé pas Rainey, pour commencer, et puis on l'appelait Ma parce que finalement, elle était très...
Physiquement maternelle.
Dans sa pratique aussi. Enfin bref, c'était la mère du régiment. Elle chantait pour le public noir... qu'elle rencontrait au gré de ses tournées, parce qu'elle tournait énormément. Elle avait même un wagon spécial qu'on attachait au train pour aller ici ou là.
Oui, ça lui permettait d'emmener sa maison, quoi.
Exactement. Donc, elle pouvait aussi bien chanter les travaux agricoles au Mississippi que les travaux industriels dans l'Alabama, comme c'est le cas ici, puisque le blues qui vient est dédié à des fours d'aciérie. Tu sais qu'on fabrique l'acier dans des fours d'où il sort des machins incandescents, un peu informes. Et l'inventeur d'un procédé transformant le minerai de fer en acier avec divers ingrédients, eh bien, il s'appelait Monsieur Bessemer. Donc, les fours s'appellent les fours Bessemer, les fours en question.
Vous imaginez bien que ce n'était pas un métier facile. C'était des gens qui vivaient, comme toutes les personnes qui travaillent dans l'acierie, hein, dans une chaleur absolument infernale. Et les conditions étaient terribles. Nos ouvriers ont quand même des horaires, ils ont quand même... C'est pas facile, mais quand même, on les respecte. Là, c'était très dur. Et c'est pour ça que le titre, c'est « Bessemer Bound Blues », ce qui veut dire « enchaîné à Bessemer ».
Je pense que même maintenant, ça doit pas être facile.
Hein. Non, sûr.
Quand on voit quelques images... Et en plus, une ville tout à fait construite autour de l'industrie de l'acier... Dans l'Alabama, ça s'appelle vraiment Bessemer. Même pas Bessemer Town, c'est Bessemer. Alors, à ton avis, comme ça, inopinément et hop, Belgium Stomp, ça veut dire quoi ?
Oh ben, on va dire que c'est un stomp qui vient de Belgique.
Eh bien, oui et non. C'est pas la Belgique, c'est un Belge particulier.
Alors, comme je sais que c'est Jimmy Lunceford qui a fait ce morceau...
Eh oui, Jimmy Lunceford était un homme très cultivé qui lisait pas mal ce qui était écrit sur la musique qu'il faisait. Et il a tenu à ce qu'il y ait dans son répertoire un morceau dédié à un auteur belge qu'il affectionnait particulièrement. Et cet auteur, c'était Robert Goffin.
Ce Robert Goffin, imaginez-vous que c'était un précurseur. C'est la première personne qui est allée aux Amériques, comme on disait à l'époque, pour voir lui-même rencontrer, écouter les musiciens noirs américains. Ce qui ne se faisait absolument pas autrement. Plus tard, il aura quelqu'un qui le fera, c'est Hugues Panassier. Mais là, Robert Goffin, ça a été vraiment le premier. Et je pense que Lunsford lui en a été finalement très reconnaissant.
Ah, il a voulu marquer le coup. Et alors, ces auteurs d'avant-guerre, les premiers qui est donc écrit sur la question, ils étaient partis à la rencontre du jazz en général et ils ont peu à peu trouvé tout seuls, parce que personne ne leur a expliqué, c'était une question d'oreille, ils ont compris que c'était une invention des Noirs. Mais à l'époque, c'était pas du tout notoire chez les intellectuels blancs. Hein.
D'autant que, détail pratique, c'était compliqué, très très compliqué, quand on était blanc, d'aller prendre un hôtel dans un quartier noir.
Ah bah c'était impossible. Robert Goffin ne l'a certainement pas fait. Et quelques années après lui, en 1938, Hugues Panassier, qui connaissait depuis l'Europe des musiciens qui étaient venus y jouer, est descendu carrément à Harlem, chez Mesereau, qui habitait Harlem. Et ça a fait un scandale, alors, de première bourre.
Et pourtant, Mesereau était blanc.
Oui, mais alors Mesereau, si vous lisez son livre, paru en livre de poche, que nous conseillons vivement, qui s'appelle « La rage de vivre », vous comprendrez exactement comment un blanc aime tellement la musique des Noirs qu'il finit par se faire noir lui-même. Alors ça, c'est une autre histoire. Et peu de temps auparavant, Jimmy Lunsford avait fait enregistrer à son orchestre un autre morceau, également dédié à un Européen. Et le titre choisi, que nous retrouverons un peu plus tard lorsque nous en serons à la lettre J, le titre choisi était « Le Jazz Hot », ce qui était le titre du premier des livres de Hugues Panassier, qu'il avait écrit très jeune à l'occasion de sa découverte de la musique de jazz. En tout cas, là, on en est à Robert Goffin. Voici
Belgium Stomp.
Et nous voici à Paris, Pantruche, Paname.
Et qui est le grand, le super grand, celui que même les musiciens noirs américains connaissent du plus loin de leur Tennessee ou de leur Mississippi, c'est Django Reinhardt.
Vous allez donc entendre Django Reinhardt. Et ça se passe en 1942. Alors tu sais que la période de l'occupation pour Django Reinhardt a été quand même assez agitée. Parce que...
Ah bah oui.
Les gens du voyage n'étaient pas très bien vus du régime de Vichy.
Et ils étaient tellement mal vus qu'il y en a beaucoup qui ont été mis en camp de concentration, soyons clairs.
Ah oui, parce que les Allemands voulaient carrément qu'il n'y en ait plus.
Et ben voilà.
Mais tu sais, les amateurs de jazz forment une sorte de réseau, c'est quand même très curieux d'ailleurs, international. Et il y a eu un peu de protection de la part de gens qui avaient beaucoup d'estime pour la musique de Django Reinhardt. Il a même essayé d'aller en Suisse.
Parce que aller en Suisse, c'est finalement devenir libre de l'occupation allemande. Et il y avait énormément de gens qui avaient envie d'y aller. C'était très, très compliqué.
Très compliqué, à tel point d'ailleurs que ça n'a pas fonctionné. Et que le pauvre Django, eh ben, il est resté du côté français du lac Léman. Et il a fini la période de la guerre de cette manière. Alors tu sais que Django Reinhardt, il jouait beaucoup au sein du quintet du Club de France, avec un violoniste qui s'appelait Stéphane Grappelli, plus deux guitaristes, dont généralement son frère, qui faisaient le rythme, plus un contrebassiste. Et puis là, au début de la guerre, Grappelli se trouvait en Angleterre, et quand il a vu tout ce qui se passait, il a pensé qu'il y était très bien, et il y est resté. Donc le pauvre Django s'est retrouvé avec un quintet sans violoniste, et là, il a pris avec lui un clarinettiste.
Eh bien, ils ont joué et enregistré. Et où ? Ben dans leur quartier. Eh bien, c'était tout simplement Belleville. Vous savez, ça, c'est un quartier très populaire, mais très chouette, Belleville. Je ne sais pas comment c'est maintenant exactement, j'y vis pas, mais à l'époque, c'était... Oh là là, c'était bouillonnant. Le morceau suivant s'appelle Benson's Boogie. Alors Benson, c'est un nom extrêmement courant, mais à l'époque en 1949, il y avait un homme qui était très célèbre grâce à la radio. Vous me direz, mais la radio, ah oui, mais attendez, la radio, c'était le premier lien. Maintenant, on a Internet, on a Facebook, on a tout ça, mais à cette époque-là, la radio, elle arrivait dans les petits patelins les plus reculés. Et c'était une ouverture extraordinaire. Et bien sûr, il y avait de la musique. Et cette musique, eh bien, il y avait des gens qui la diffusaient. Et c'était...
Les disques jockeys. Les disques jockeys de l'époque, ce n'était pas ceux que vous connaissez maintenant. C'était des gens qui animait les stations de radio. Et aux États-Unis, les stations de radio pullulaient. Il y en avait des petites, des grosses. C'est un petit peu comme nous, on a vécu l'époque des radios libres. Hein.
Parce qu'il n'y avait pas de réglementation vraiment ferme. Si on voulait, on faisait une radio, si on avait les sous.
Que cette vision soit un peu optimiste ou non, de toute façon, c'était certainement plus facile que dans les régions que nous connaissons, nous plus particulièrement, et qui sont marquées par une certaine ferveur et culte administratif que vous subissez tous les jours et à de multiples titres. Mais là, nous sommes en Amérique, donc, et il faut souligner que ça dure depuis le début des années 30, parce que le début des années 30, c'est le développement exponentiel de la radio. Et le disc jockey, c'est l'homme qui va animer, qui va interpeller les gens depuis son micro.
Et surtout qui va choisir les morceaux, ça c'est extrêmement important.
Et oui, il va les choisir, il va les commenter, il va recevoir les gens qui les font, et il aura ses préférences, il aura ses chouchous, il aura des relations avec certains qui seront plus conviviales qu'avec d'autres, ça dépend des gens. Il y a ainsi des disques jockeys qui sont devenus très célèbres. J'en ai un en tête, il était surnommé Symphonicide, et on lui a dédié un morceau que nous entendrons quand nous en serons à la lettre J, qui s'appelle Jumpin' with Symphonicide. Et là, en l'occurrence, ce Al Benson, il était à Chicago.
Et c'est Lionel Hampton qui lui a dédié ce morceau.
En fait, ce n'est pas le big band à la tête duquel se trouvait Lionel Hampton à cette époque et qui jouait régulièrement. Là, c'est une séance un peu spéciale, c'est en sextette, et le pianiste, c'est le grand Albert Ammons, un des plus grands pianistes de boogie, qui était venu collaborer avec Lionel Hampton pour quelques faces. Et le morceau s'appelle donc, et forcément...
Eh oui, on vous l'a dit d'ailleurs, Benson's Boogie.
Thank you.
Est-ce que tu te souviens de Billy Kyle ?
J'ai un souvenir, si c'est bien le même dont on parle, d'un monsieur tout à fait distingué, avec une petite moustache, et qui jouait du piano.
Ah, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et joue du piano avec qui ?
Ben avec Louis Armstrong.
Et oui, et nous le vîmes dans l'orchestre de Louis Armstrong quand, du temps de nos jeunes années, nous avons été écouter le roi du jazz soi-même à l'Olympia.
Ah oui, mais alors c'est ce type qui avait beaucoup d'humour.
Voilà, et même nous avons dîné avec lui, Mesmero et quelques autres du même acabit, chez le gros Leroy à Montmartre. Ça y est, c'est à la même
Ça y est, ça me revient, le détail me revient.
Eh bien, Billy Kyle a été, quand il était jeune, un pianiste qui était assez utilisé comme bouche-trou. Alors attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je viens de dire.
Non, mais on va dire bouche-trou de luxe.
Voilà.
Dans les boîtes, il y avait une habitude. C'est que les passages, qu'on appelait les sets, ne duraient qu'une demi-heure. C'était une façon assez sympathique de faire quelque chose de varié. Et bien sûr, entre deux passages,
il y avait la pause de l'orchestre.
Il fallait quelque chose pour combler. Parce que c'était pas imaginable que tout s'arrête et qu'il n'y ait pas de musique.
Ah oui, l'ambiance cassée totalement. Bah, si tu vas à la Huchette, par exemple, dès que l'orchestre s'arrête, la sono commence. Mais à la Huchette, les sets font plus qu'une demi-heure. Hein, c'est pas... Les orchestres sont plus cadrés en Amérique, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, selon nos informations, c'est une demi-heure. Alors, pendant la pause, que se passe-t-il ? Comme tu disais, bah, faut pas que ça s'arrête. Et eh bien, on envoie le pianiste qui mettant ta contribution.
Eh bien, notre ami Billy Kyle, parce que c'est un homme qui sait parfaitement s'adapter à toute situation. Et comme il avait beaucoup d'humour, il a donné un nom au morceau en question. Ce nom, c'est « Between Sets », ce qui veut dire « entre les sets, entre les passages », puisque c'était son rôle.
Devinette maintenant. Que désigne Big D ? Autrement dit, le gros D.
Alors, il faut chercher soit un monsieur qui est très gros et qui s'appelle David ou un truc comme ça.
Non.
Mais Je crois savoir qu'il s'agit d'une ville.
Tristement célèbre, d'ailleurs, maintenant.
Ah oui, maintenant, oui. Et il s'agit de Dallas.
Alors, Dallas, ce monde impitoyable, mais aussi cet endroit où on a assassiné un président.
Bah oui, et qui est quand même une grosse ville.
Ah oui, et Dallas se trouve au Texas, il faut savoir ça.
Et là, bah, y a des musiciens texans.
Ah oui, il y a des musiciens texans.
Il y a des musiciens texans et ils ont leurs caractéristiques. Parce que le Texas a toujours revendiqué d'être à part.
Ah oui, si vous demandez à quelqu'un du Texas de vous expliquer comment est son état, il vous décrira une carte des États-Unis où le Texas en occupe à peu près les trois quarts. C'est un état dans l'état, en fait. Et nous avons constaté, en voyant l'origine des gens, que la plupart des musiciens du Texas, nés au Texas, avaient en eux une sorte de force vitale, d'énergie, presque de violence, je ne sais pas très bien comment dire ça, mais beaucoup de densité.
Oui, une sorte de violence. Le Texas, c'est un pays où les passions sont exacerbées. Il y a la chaleur, il y a la rudesse des paysages et du travail, puisque c'est un pays de cow-boys. Or, les être cow-boys, ce n'était pas du tout un métier facile.
C'est vrai. Remarque, maintenant, ils ne sont quand même plus tellement armés, hein, faut être honnête.
Oui, mais quand même, ça reste dans les mentalités.
Il y a aussi l'agriculture à proprement parler, à côté de l'élevage. Et puis, il y a le pétrole. Tout ça, ça fait un tout qui est extrêmement vigoureux. Le Texas, ça pourrait être un pays qui suffit à lui tout seul. Hein. C'est vrai. Ils n'ont pas tort, les Texans. Enfin, au hasard, on peut citer, je sais pas moi, Teddy Buckner, Arnett Cobb, Buddy Tate, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et même le chanteur de blues, Texas Alexander. Tous ces gens-là, ils ont quelque chose comme ça.
Et ils sont très fiers d'être Texans.
D'où ce surnom donné à la ville de Dallas, Big D. Et qui est né en cet endroit-là?
Eh bien, Lips Page.
Trompettiste, chanteur. Et puis alors lui, question énergie, c'est quelque chose d'assez phénoménal, hein. Alors, il a dédié un morceau à sa ville natale, et ce morceau s'appelle...
Donc, Big D Blues.
Thank you.
Nous qui sommes nés pendant la guerre, pendant l'occupation, pendant le marché noir, est-ce que tu te rappelles ce que c'était qu'un BOF ?
Ah, absolument, parce que mes parents, tout le monde disait ça. Un BOF, c'était beurre, œufs, fromage. Et c'est vrai qu'on en manquait cruellement. Et c'est des gens qui ont fait une sacrée fortune. En vendant malheureusement souvent aux plus fortunés, si vous voyez ce que je veux dire, allemand compris.
Très cher.
Et parfois fort privilégié. Et effectivement, c'est un surnom qui n'était pas hyper positif.
Non, ça désignait finalement les parvenus de l'après-guerre.
C'est ça.
Même s'ils n'étaient pas dans la crèmerie en gros, hein, ou la crèmerie tout court. Et c'était assez méprisant. Enfin, moi, je me souviens quand même, à la table familiale, quand on parlait de tel bonhomme ou telle famille, « Oh, c'est des BOF, c'était pas...
Hein, » bon. C'était pas reluisant.
C'était pas flatteur. Mais il n'y a pas qu'en France qu'on fait son beurre avec ce genre de choses. Il y a aussi l'Amérique, puis là, c'est du beurre en très gros.
Parce qu'en Amérique, c'est tout pareil.
Et oui, c'est tout pareil. Et alors, dans les années 20 en particulier, avant la crise, il y a eu des prospérités absolument dingues. Et cette catégorie de gens a été surnommée les « Big Butter and Egg Men », c'est-à-dire...
Ce qui veut dire le gros homme du beurre et des œufs.
Voilà, bah c'est à peu près ce que nous disons en français.
Même chose.
Et alors, ces gens-là, c'était surtout dans les États du Midwest. Et ils venaient faire la bringue à Chicago et dans d'autres villes un petit peu d'importance. Et là, ils faisaient une bringue alors à tout casser.
Et surtout, visible, la bringue.
Et figurez-vous qu'un soir, à Chicago, dans un gros nightclub, un BOF est arrivé, a payé pendant toute la soirée et toute la nuit les consommations de tout le monde dans l'établissement. Alors, c'est la tournée généralissime.
Quand même.
Et après quoi, il a fait venir toutes les filles et il leur a donné à chacune, en fonction de l'opinion qu'ils pouvaient s'en faire, un ou plusieurs billets de $50. Alors, voilà, un type qui arrose et large. Et c'est là qu'une fille qui avait assisté à tout ça a trouvé le mot « Big Butter and Eggman », en fait. Ça ne te rappelle rien ?
Il y a un personnage un peu de ce même type dans une des opérettes d'Offenbach.
La vie parisienne.
C'est le Brésilien.
Il est sous Brésilien, il est de l'or. Il arrive de Rio de Janeiro.
Et là, bien sûr, tout le monde en rit.
Et tout le monde en profite.
Et tout le monde en profite.
Donc le personnage ne date pas des années 20, en fait. Je crois même, d'ailleurs, que si on fouinait un peu dans la littérature antique, on trouverait les mêmes. Ce morceau, c'est Louis Armstrong qui va vous le jouer, justement à son époque Chicago, dans les années 20. Il y a une chanteuse qui s'appelait May Alix, qui surfait un petit peu sur la vague de la mode des chanteuses de l'époque, et qui vous semblera un tantinet excessive, et peut-être dérangeante, je ne sais pas. Vous verrez bien, c'était la mode du temps.
Down south.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.